Chapitre 5. Carter Yergun trouve le lieu immonde à la seconde où il le découvre. Il frissonne de dégoût sur le siège passager du Vélociraptor. Ronnie Corrigan, tout au bas de l'échelle des bouffeurs de sable de cette vallée désertique, réduit son empreinte carbone en produisant sa propre électricité, à en juger par les deux éoliennes installées sur son terrain. De vilaines structures métalliques qui ne sont pas sans évoquer les machines de mort de la guerre des mondes, à des années-lumière des moulins à vent hollandais. La maison de plain-pied où s'est déroulé l'incident du crocodile possède en guise de toit une multitude de panneaux solaires. Elle dresse sa triste façade crépie au milieu d'une vaste étendue sableuse qu'aucun cactus ne vient égayer. L'unique preuve de l'existence d'une flore sur ce coin de planète aride se limite à trois palmiers géants aux feuilles desséchées et un olivier malingre aux aires de sculpture avant-gardiste. Des rangées parallèles de cailloux délimitent l'allée qui conduit jusqu'à la maison devant laquelle sont rangés deux jeeps Cherokee noirs. Dubose fait halte à une quinzaine de mètres des véhicules et examine le pavillon d'un air maussade. J'appelle ça l'incident du crocodile, mais il est surtout question du triomphe de la mémoire reptilienne. Il existe une chance sur 10 000 qu'un individu modifié soit victime d'un effondrement psychique lorsqu'on lui implante un mécanisme de contrôle. Yergun fronce les sourcils. Le triomphe de la mémoire reptilienne? Une expression de l'inventeur des nanomachines. Berthold Schenek? Mais il est mort. Je ne suis pas en train de te dire qu'il m'a parlé pendant une séance de spiritisme. Il s'est inquiété de la possibilité d'un tel phénomène dès le début. Il entrevoyait la possibilité de crises psychotiques de deux sortes. Comment se fait-il que tu sois au courant de tout ça, et pas moi? Je connaissais l'une de ses proches, Inga Schenek. Sa femme? Avant qu'elle l'épouse et pendant quelque temps par la suite, on est sortis ensemble. Yergun a du mal à y croire. Mais cette fille était un canon!
C'est rien de le dire, acquiesce Dubose. C'était même une bombe atomique.
Elle était insatiable, elle m'épuisait. Carter Yergun ne croit pas au sens de l'existence, pas plus qu'il ne croit au bien et au mal. Il n'a pas une vision en noir et blanc du monde dont il ne distingue que les nuances de gris. Il n'est nullement convaincu que la vie, la société ou la justice sont équitables. Il ne le souhaite même pas. L'équité constitue une aberration à ses yeux. Elle n'est présente nulle part dans la nature. Il ne croit qu'aux vertus du pouvoir. Seuls ceux qui possèdent la volonté de s'emparer du pouvoir sont habilités à esquisser l'avenir. Il n'en trouve pas moins injuste qu'un crétin de Cambrousse, ayant très certainement obtenu frauduleusement sa bourse d'études à Princeton, un type qui plie ses tranches de bacon en deux à l'heure du petit-déjeuner pour les manger avec les doigts, un ignare qui ne sait pas distinguer un couteau à beurre d'un couteau à poisson, puisse avoir eu une aventure avec une femme telle qu'Inga Schenek. C'était une femme gracieuse, avec un goût exquis.
Dubose hoche la tête.
C'est bien pour ça que je lui plaisais.
Tu ne m'en as jamais parlé.
Je ne parle jamais à personne des femmes avec qui j'ai été. La discrétion est le propre d'un gentleman.
Tu parles de discrétion alors que tu viens de me dire qu'elle était insatiable.
Dubose paraît surpris. Je te rappelle qu'elle est morte. Je ne vois pas l'utilité de me montrer discret alors qu'elle se trouve dans un cercueil.
Yergun observe longuement les éoliennes dont les pales géantes cisaillent l'air, sans parler des oiseaux qui ont le malheur de passer à leur portée. Le soleil se reflète sur les panneaux solaires. Le crépi de la façade est vert, comme de la mauvaise bile. Un chien pelé d'origine incertaine traverse l'allée, s'accroupit et dépose une crotte devant le vélociraptor.
Cet endroit me ferait croire à la réalité de l'enfer, commente Yergun en balayant d'une main le triste paysage.
Dubose hausse un sourcil.
Tu me sors la grande scène du deux? Notre boulot est difficilement compatible avec les angoisses existentielles. Tu ferais mieux d'arrêter de regarder les séries historiques à la télé. Elles te mettent les idées en vrac. Tu verras, tu te sentiras nettement mieux après.
Et j'aime te voir heureux, l'ami.
Comme vous êtes gentil !
S'exclame Jürgen en français, sur un ton moqueur.
Vous êtes trop aimable ! Merci infiniment !
Dubose secoue la tête en soupirant. De rien, mademoiselle, répond-il dans la même langue.
Tu parles français ?
Réagit Jürgen ébahi. Tu pourrais aussi bien demander à un ours s'il chie dans les bois, rétorque Dubose. Il pose une main sur l'épaule de son collègue. Calme-toi, mon pote. Si tu perds les pédales, rien qu'en voyant l'extérieur de cette maison, je n'ose pas imaginer ta réaction à l'intérieur. Carter Jürgen s'oblige à supporter la main de Dubose, sachant qu'elle ne restera posée là que quelques instants.
Ah ouais? Qu'y a-t-il à l'intérieur?
Des morts.
J'en ai vu pas mal dans ma vie, dont un certain nombre tués par mes soins.
Peut-être, mais ceux-là ne sont pas jolis.